VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Oui, bonjour à tous. Avec vous ce matin, Bagassi Koura et Anne Albertson. Bienvenue à cette édition du jeudi 26 mars 2015. Au sommaire ce matin.
Au Tchad, la Cour criminelle spéciale de N'Djamena a condamné hier plusieurs responsables des services de sécurité de l'ancien président Hissène Habré.
En RCA, plusieurs armes de guerre récupérées ont été remises au ministère de la Défense.
Au Nigeria, il y a une femme parmi les 14 candidats à la présidentielle de samedi. Elle s'appelle Rémi Soinaya.
En général, les grands partis politiques, parmi eux, la femme est reléguée au second plan. Mais le parti politique auquel j'appartiens n'est pas comme ça.
Voilà, le parti n'est pas comme ça. Le soldat américain Bo Bergdahl, détenu pendant 5 ans par les talibans en Afghanistan, sera traduit en cour martiale pour désertion et mauvaise conduite face à l'ennemi. À suivre aussi la Minute Éco avec Jean-Roger Bion, suivi des sports avec Nicolas Pinot. Mais d'abord le journal.
Au Tchad, la Cour criminelle spéciale de N'Djamena a donc condamné hier plusieurs responsables des services de sécurité de l'ancien président Hissène Habré. 7 des 28 accusés ont écopé de la prison à perpétuité, y compris l'ancien patron de la direction de la sécurité et de la documentation, Saleh Younis. 3 accusés ont été condamnés à 20 ans de prison, 14 autres ont reçu des peines allant de 7 à 15 ans et 4 ont été acquittés. Les victimes et leurs avocats s'en félicitent. Du côté de la Défense, on estime que la Cour est allée trop vite en besogne. Maître Josué Ngadjadoum, avocat des accusés.
C'est d'abord une grosse déception parce qu'on s'attendait à ce que la Cour puisse examiner point par point les arguments de droit qu'on avait soulevés. Des causes de non-culpabilité qui existent d'ailleurs dans notre code, ce sont des agents qui ont agi quand même sous l'ordre de leur supérieur hiérarchique. On s'attendait à ce que la Cour puisse faire ce petit examen. Là, malheureusement, ça n'a pas été fait. Les condamnations sont tombées en cascade. C'est dommage pour une décision qu'on voudrait historique pour réconcilier le peuple. Je pense que la Cour est allée même trop loin. Vous avez vu même jusqu'à des décisions administratives, la création d'une commission, la composition d'une commission, je pense que ça c'est beaucoup plus politique, ça ne relève pas vraiment d'une décision de justice, le juge ira à une condamnation, il fixe la sanction pénale, il fixe les dommages et intérêts, mais quant à l'exécution, quand il y a une commission qui va l'exécuter, tout ça, ça ne ressort pas. On demande aux pays amis, aux associations d'aider à payer ce montant, non, c'est du jamais vu, c'est ce qu'on déplore depuis toujours, ce procès-là, malheureusement il nous laisse sur notre soif. S'agissant d'une affaire criminelle, je pense que les principes de droit sont les mêmes. Il doit y avoir un pourvoi en cassation. On va examiner la possibilité, ensemble avec nos clients, d'exercer cette voie de recours si c'est possible. Parce que, bon, il faut toujours aller devant une autre juridiction maintenant qui va examiner le droit et de voir si cette juridiction va accueillir favorablement le pourvoi qu'on envisagerait de faire si d'aventure on pouvait faire un pourvoi.
Maître Josué Ngadjadoum, extrait fourni par FM Liberté, notre station partenaire à N'Djamena.
Le gouvernement nigérien a démenti hier des informations selon lesquelles un grand nombre d'enfants ont été enlevés dans le nord-est du pays où le groupe islamiste Boko Haram est combattu par une opération militaire régionale. Les précisions de Jacques Aristide.
Il n'y a pas eu de nouvel enlèvement à Damasak, ce sont les mots, comme le rapporte l'AFP, de Mike O'Meary, porte-parole du gouvernement pour les questions de sécurité. Auparavant toutefois, plusieurs médias internationaux avaient signalé qu'un groupe de combattants appartenant à Boko Haram s'était enfui de Damasak, ville nigériane reprise début mars par les troupes du Niger et du Tchad, après avoir capturé des centaines d'enfants. Le sénateur représentant le nord de l'état de Borno, où est situé Damasak, avait confirmé l'information comme l'ont fait des habitants de la ville, de même que Tumba Mohamed, commandant de la force tchado-nigérienne à Damasak. Des informations contradictoires qui mettent en lumière les difficultés pour couvrir les régions coupées du reste du Nigeria. D'après l'AFP, le gouvernement d'Abuja, les militaires et les témoins donnent souvent des versions diamétralement opposées.
Toujours au Nigeria, un tribunal a annoncé hier avoir repoussé sa décision sur la mise en cause de l'éligibilité du principal candidat de l'opposition, Muhammadu Buhari, à l'après-présidentielle de samedi. C'est ce que rapporte l'AFP. L'APC, le Congrès progressiste de Buhari, avait dénoncé cette semaine ce recours en justice comme une manigance du parti au pouvoir visant à disqualifier le principal rival du président Goodluck Jonathan juste avant le scrutin. Une plainte a été déposée par un particulier qui accuse l'ex-général Buhari Buhari de ne pas avoir les diplômes requis pour se présenter à l'élection présidentielle et d'avoir menti sous serment devant la commission électorale indépendante en assurant que l'armée était en possession de ses diplômes.
Le gouvernement guinéen a invité mercredi la classe politique au dialogue, jugeant excessif l'appel des trois principaux partis d'opposition. Ces derniers, contestant le calendrier électoral, ont appelé mardi à manifester contre le pouvoir du président Alpha Condé. Lors d'un point de presse, le porte-parole du gouvernement, le ministre Albert Damatang Camara, a souligné la volonté du gouvernement de tout faire pour préserver la paix sociale.
En Centrafrique, plusieurs armes de guerre récupérées ont été remises ces derniers jours au ministère de la Défense par des éléments des forces de défense et de sécurité. Elles ont été présentées hier au Premier ministre de la Transition, Mahamat Kamoun, qui s'en est félicité. Le point avec Jean-Roger Bion.
Des armes de guerre, des armes de chasse, des munitions ainsi que des effets militaires ont été présentés hier au chef du gouvernement de la transition. Il s'agit des premiers fruits de l'opération de désarmement volontaire des éléments des forces de défense et de sécurité lancée cette semaine par le ministère centrafricain de la Défense. La présentation s'est déroulée dans l'enceinte du dit ministère à Bangui. Le premier ministre Mahamat Kamoun s'en est félicité et a demandé aux autres détenteurs illégaux d'armes de guerre d'emboîter le pas aux forces de défense et de sécurité.
Comme vous le savez, notre pays a assez souffert de ces différentes crises. Et donc, il était important que le gouvernement, à travers le ministère d'État à la Défense, puisse lancer une telle opération pour ramasser les armes de guerre et autres qui pullulent dans notre pays. Et je crois que ce qui vient de se passer aujourd'hui est un exemple qui mérite d'être suivi par tous. Il se trouve qu'il y a même des civils qui sont manifestés déjà. Et donc, on ne va pas faire la différence. S'il y a des civils qui veulent bien ramener les armes qui se trouvent en leur possession, nous ne pouvons que nous féliciter.
Des récompenses de divers ordres sont promises aux éléments qui restitueront les armes. Rappelons que l'opération lancée lundi s'inscrit dans le cadre de la célébration du 54e anniversaire des forces armées centrafricaines, prévue le 4 avril prochain.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La coalition dirigée par les États-Unis a commencé des frappes aériennes contre des objectifs du groupe État islamique dans la ville de Tikrit en Irak. Les forces irakiennes qui ont du mal à venir à bout des islamistes ont demandé ces frappes aériennes aux États-Unis. Pour le commandant de la coalition, le général James Terry, ces frappes ont pour objectif de détruire les bastions du groupe islamiste. Les forces irakiennes ont tenté en vain pendant plusieurs semaines de reprendre Tikrit.
L'ambassadeur saoudien aux États-Unis affirme que son pays a lancé des frappes aériennes contre les rebelles chiites Houthis au Yémen. Abdel Al-Jubeir a déclaré aux journalistes hier soir que son pays va faire tout le nécessaire pour protéger le peuple du Yémen et ce qu'il appelle son gouvernement légitime. L'ambassadeur a déclaré que les Houthis ont toujours emprunté le chemin de la violence. Il a affirmé que les Saoudiens ont consulté les États-Unis avant de lancer les frappes, mais on ne sait pas si les États-Unis jouent un rôle dans ces opérations.
Et puis le soldat américain Bo Bergdahl, détenu pendant 5 ans par les talibans en Afghanistan, sera traduit en cour martial pour désertion et mauvaise conduite face à l'ennemi, a fait savoir un responsable américain hier. Les précisions d'Eddie Sango.
Âgé de 28 ans, le sergent Bo Bergdahl avait quitté son poste en Afghanistan le 30 juin 2009, après avoir exprimé des doutes sur son rôle, celui de l'armée américaine et la guerre contre les talibans. Peu après son départ, il a été capturé par les insurgés afghans qui l'ont gardé prisonnier pendant 5 ans avant de l'échanger. La décision du président Barack Obama de l'échanger l'année dernière contre 5 talibans détenus à la prison de Guantanamo avait suscité une vive controverse, certains estimant que ces talibans allaient sans doute répandre les armes. Seul Américain en uniforme capturé durant la guerre en Afghanistan, Bo Bergdahl avait été remis aux forces spéciales en Afghanistan et avait regagné les États-Unis après 2 semaines dans un hôpital militaire en Allemagne. L'armée américaine a ouvert une enquête pour faire la lumière sur sa capture, surtout que d'autres soldats de son unité disent qu'il avait volontairement quitté son poste.
Une information qui ne va pas rassurer les familles des victimes du crash de l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings dans les Alpes françaises.
Un enquêteur anonyme a en effet affirmé au New York Times ce mercredi que l'un des pilotes avait quitté le cockpit et a été incapable d'y revenir juste avant le crash. S'appuyant sur le contenu de l'une des boîtes noires récupérées sur le lieu de l'accident, l'enquêteur a déclaré au Times que la personne qui était dehors a frappé légèrement sur la porte et elle n'a pas eu de réponse. Elle a frappé à nouveau fortement la porte et pas de réponse. Il n'y a jamais eu de réponse, dit-il.
Cet enquêteur a aussi affirmé qu'on a entendu le pilote essayer de briser la porte. L'enregistrement soulève des interrogations sur les raisons qui ont fait que la porte n'a pas été ouverte. Mais ce qui est sûr, a dit l'enquêteur, c'est que tout à la fin du vol, l'autre pilote est seul et n'ouvre pas la porte.
Tout savoir sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco et ce matin, c'est avec Jean-Roger Billon.
Poursuite à Abidjan d'une réunion de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial en présence des membres du gouvernement ivoirien. Les autorités ivoiriennes souhaitent le déplacement du siège de cette organisation de Londres à Abidjan afin d'accroître leur pouvoir décisionnel sur le secteur du cacao. Cette réunion prendra fin ce vendredi. Le Togo veut réduire sa dépendance dans certains secteurs agricoles. Des projets dans le domaine avicole et du palmier à huile viennent d'être lancés. Ils permettront au pays d'économiser des dizaines de milliards par an, fournir du travail à 1 millier de jeunes et contribuer à la sécurité alimentaire dans le pays. Le groupe Kilian veut accompagner le Togo dans cette voie. On écoute son directeur des opérations, Philippe Maheu.
L'idée, c'est d'avoir un programme d'aide aux éleveurs locaux. Donc on leur fournira tout le matériel, toutes les matières premières, tous les aliments. Ils pourront eux-mêmes élever les volailles et ensuite, nous, on pourra leur racheter pour les passer à l'abattoir. Et l'idée, c'est de rendre le Togo indépendant en termes d'importation de viande de volaille d'ici à 2019-2020.
Et le service de messagerie Messenger de Facebook, qui revendique 600 millions d'utilisateurs, veut passer à la vitesse supérieure en l'ouvrant aux développeurs extérieurs d'applications. Facebook a déjà présenté récemment de nouvelles fonctionnalités pour renforcer Messenger avec, par exemple, un service permettant de l'utiliser pour envoyer de l'argent à ses amis, qui doit démarrer dans les prochains mois aux États-Unis.
Voilà, vous écoutez VOA Afrique, c'est l'heure des sports. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Bagassi.
Série de matchs amicaux hier pour les sélections africaines.
En tournée en Asie, le Cameroun s'est imposé par la plus petite des marges face à la modeste équipe d'Indonésie 1-0. C'était hier grâce à une réalisation de Vincent Aboubakar. On rappelle quand même que l'Indonésie est classée 156e au classement FIFA. Prochain galop d'essai pour les Camerounais dans cette tournée asiatique. Ce sera lundi face à la Thaïlande, 142e nation mondiale.
Et puis Nicolas, notez cette défaite du Mali contre le Gabon.
Oui, très décevant. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles se sont inclinés contre le Gabon qui a même manqué un pénalty. Défaite 3-4. Le Bastier Diakité, Wagé et l'ancien Stéphanois Sako ont bien marqué du côté malien. Mais en face, Aubameyang a inscrit un doublé. Excellent. Evouna a aussi marqué un but, tout comme l'ancien Lorienté Ekwele Manga. Victoire finale des Panthères du Gabon, 4-3. Dans 4 jours, le Mali affrontera le Ghana et devra se montrer plus solide derrière. Les Black Stars hier ont battu la Namibie 1-0. Les Super Eagles du Nigeria ont été battus par l'Ouganda 1-0. Victoire facile de l'Afrique du Sud contre le Swaziland 3-1.
À noter aussi cette victoire du Danemark 3-2 contre les États-Unis. L'Allemagne a concédé un match nul 2-2 contre l'Australie. Et à suivre ce jeudi, Nicolas, le choc à Paris, France-Brésil.
L'équipe de France qui reste invaincue lors de ses 4 derniers matchs à domicile face au Brésil. 2 victoires, 2 matchs nuls. À la veille de ce match, hier, Dunga, le sélectionneur brésilien, s'est exprimé lors de la conférence de presse à l'occasion de son retour au Stade de France, 17 ans après la déroute face à la France. En finale de la Coupe du Monde 98, les Bleus l'avaient emporté 3-0. Le sélectionneur brésilien se souvient de la fête dans les tribunes, dans le stade et l'adrénaline des moments. Et puis côté africain, ce jeudi, on jouera l'Algérie face au Qatar et le champion d'Afrique ivoirien, la Côte d'Ivoire, contre l'Angola. Enfin, Bagassi, je vous laisse donner quelques résultats de NBA. Le championnat de basket nord-américain.
Victoire de Brooklyn sur Charlotte 91-88. L'autre équipe de New York, les Knicks, ont été dominés par les Los Angeles Clippers 111-80. Victoire d'Atlanta sur Orlando 95-83. Indiana a assuré le minimum face à Washington 103-101. Les Bulls de Chicago ont eu raison de Toronto 116-103. Miami a battu Boston 98-86. 111-89 pour Cleveland face à Memphis. Les Lakers de Los Angeles ont battu Minnesota 101-99. Et puis enfin, notez cette large défaite d'Oklahoma City face à San Antonio 130-91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Kouram, votre compagnie pour cette édition du jeudi 25 mars 2015. Place maintenant au dossier du jour. Fin hier à N'Djamena, au Tchad, du procès de 28 anciens responsables des services de sécurité de l'ancien président tchadien Hissen Habré, accusé d'assassinat et de torture. 7 des prévenus ont écopé de la prison à perpétuité. C'est le soulagement, bien sûr, chez les victimes qui avaient porté plainte en l'an 2000. Timothée Donangmaï s'est entretenu avec l'une des victimes, Ousmane Abakar, qui revient d'abord sur les sévices endurés sous le régime d'Hissène Habré.
D'abord, je suis prisonnier de guerre. Je suis arrêté à Fayal-Arjou en 1983 et puis j'ai mis 4 ans et demi en prison. J'ai subi toutes les sortes de tortures. J'ai vu perdre mes collègues en prison, mourir comme les bétails meurent pendant la sécheresse. Et il y a d'autres qui sont massacrés aux alentours de la ville de N'Djamena. Et nous qui avons eu la chance d'être survivants, c'est grâce à la communauté internationale, la CICR, qui était venue nous sauver.
Vous avez gagné votre procès. Quel est votre sentiment?
Bon, mon sentiment est le sentiment de joie. Je suis tellement content et je suis ravi. Vraiment, je suis à côté de mes avocats et mes défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, je suis tellement content. Je n'allais même pas rentrer. On a passé même toute une semaine à la fête. Donc, vraiment, on est là. Tout le monde, on est là. On est en train de vraiment chanter et vraiment se parler de notre histoire. Je suis tellement content.
Les sentences ont été rendues. Qu'est-ce que vous attendez d'autre?
Nous attendons maintenant le grand procès de Hissen Habré qui est à Dakar. Et nous attendons aussi que les décisions qui ont été prises par le juge ici au Tchad, ça doit être appliqué. Donc nous attendons vraiment l'application de ces décisions.
Quelles sont ces décisions?
Bon, nous attendons ce que nous avons demandé plus longtemps, le monument, c'est le plein de morts, et puis la musée nationale, la piscine, qui nous avons demandé pour l'irrigation de la musée nationale, et puis l'indemnisation aussi des victimes, parce que le juge a pris la décision que nous serons indemnisés matériellement. À travers votre micro, vraiment je remercie maître Jacqueline Modena, une fille africaine, une fille tchadienne, vraiment qui a pris son plume rien que pour défendre les pauvres victimes qui ne savent ni lire ni écrire pour chercher leurs droits ou passer par où ils ne connaissent pas. Elle avait défendu ces victimes et accompagné des victimes qui ne les lisent. Et Landu Shonda et d'autres avocats, je les remercie et je les encourage pour qu'ils fassent encore d'autres choses mieux que ça. Pour nous, les victimes de Hissène Habré, et que pour les autres Tchadiens et les autres Africains, pourquoi pas, pour l'humanité tout entière.
Voilà, c'était Ousmane Abakar, victime de la répression sous le régime de l'ancien président tchadien Hissène Habré.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Voilà, il y a une femme parmi les 14 candidats en liste pour la présidentielle au Nigeria de samedi. La candidate professeure de français et de linguistique à la retraite dit se battre contre la corruption, la condition de la femme et de la jeunesse, victime de divers maux dus, entre autres, aux attaques répétées de Boko Haram. Eh bien, Eddy Sango a joint la candidate Rémi Sonaya.
En général, les grands partis politiques, parmi eux, la femme est reléguée au second plan. Mais le parti politique auquel j'appartiens n'est pas comme ça. Pour Kowa, tout le monde est au même niveau. Voilà pourquoi j'ai pu réussir à remporter l'élection au niveau des primaires de mon parti politique.
Vous briguez les postes de la présidence à un moment où le Nigeria fait face à un conflit armé avec les groupes Boko Haram. Et dans ces combats, on sait combien la femme a souffert avec les enlèvements. Quel rôle pensez-vous jouer si jamais vous étiez élu?
Mon rôle sera de continuer à assurer la sécurité du pays. Nous sommes contents de constater que ces derniers jours, nos militaires ont commencé à avoir beaucoup plus de succès face à ces terroristes qui s'appellent Boko Haram. Il faut donner à notre armée, à nos soldats, tout ce qu'il leur faut pour ne pas se retrouver dans un état inférieur à Boko Haram. Également, il faut une meilleure coopération avec d'autres pays de la région, comme le Cameroun, le Niger, et le Tchad. Et même, je dirais, si c'est nécessaire, d'avoir une force régionale sur place dans cette région.
Madame, avec deux candidats qui sont déjà rodés dans la politique et bien connus, je parle ici des Goodluck Jonathan et des Bouhari. Pensez-vous vraiment avoir la chance d'être élu?
Il ne s'agit pas d'une assurance quelconque. Ce que je fais, c'est de me présenter. Ce que j'ai fait aussi, c'est me présenter comme candidate parce que j'étais convaincue qu'il fallait que je fasse le résultat de ça complètement aux Nigériens. Et je ne sais pas comment ils vont voter. Tout le monde sait que la corruption est vraiment endémique dans notre pays.
Voilà, c'était Rémi Sonoya, candidate à la présidentielle de samedi au Nigeria.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur les élections nigérianes du 28 mars. Enjeux et acteurs clés. Le Nigeria choisira-t-il la continuité ou l'alternance? Qui de Jonathan ou de Buhari l'emportera? Boko Haram de Shekau jouera-t-il le trouble de fête? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En rapport toujours avec le Nigeria, la lutte contre Boko Haram. Notre envoyé spécial Idriss Fall est arrivé hier à Diffa. C'est dans l'extrême nord du Niger. Cette ville frontalière avec le Nigeria a été, il y a quelques semaines, le théâtre de violentes attaques de militants du groupe Boko Haram. Joint par Nicolas Pino, Idriss Fall commence d'abord par décrire l'ambiance dans la ville.
Bon, on peut dire que Diffa est presque une ville en guerre. Il y a des militaires partout, des patrouilles de l'armée. La vie reprend un petit peu, mais à partir de 6h du soir, 7h, toutes les rues sont désertes, les gens sont enfermés chez eux. J'ai fait le tour de la ville, j'ai parlé avec beaucoup de gens, il y a une rancœur contre Boko Haram. L'état d'urgence se fait ressentir parce que les écoles étaient fermées, le commerce ne marche plus. Globalement, la situation est vraiment morose, même si on sent qu'il y a un retour de la sécurité. Bien que les militaires avec lesquels j'ai parlé il y a 2 ou 3 jours, il y a eu des échanges de tirs avec des tentatives d'infiltration de Boko Haram vers Diffa. Et le commandant de zone m'a dit que jusqu'à présent, ils savent qu'il y a des infiltrés ici. Généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils traversent la rivière et déposent leurs armes là-bas et viennent se fondre avec la population. Donc c'est loin, loin d'être fini.
Idriss, vous avez également pu vous rendre côté nigérian de la frontière.
Absolument. Donc avec l'armée, on a pu aller jusqu'au pont d'Outsi, qui sépare en fait le Nigeria du Niger. C'est au-dessus de la rivière Kamogochi. Et donc, on a pu traverser la première zone de combat. Vous savez que maintenant, l'armée nigérienne et l'armée tchadienne contrôlent la localité de Routsi et de Damasak. Et les combats ont commencé là. Donc, ils ont pu nous montrer les cadavres de Boko Haram qui ne sont même pas enterrés, qui sont encore sur le sol. Et quand on a retraversé pour revenir du côté Niger, on nous a montré la maison de cet argentier et recruteur présumé de Boko Haram qui est maintenant aux arrêts.
Voilà, c'était Idriss Fall, envoyé spécial de VOA Afrique à Diffa, dans l'extrême nord du Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Voilà, on va rester dans la région et pour traverser la frontière au Cameroun, tenue d'une conférence sur l'intégrisme et l'extrémisme islamique. L'objectif est de sensibiliser les leaders religieux du pays au danger d'une idéologie embrassée par des mouvements tels que le groupe État islamique et les terroristes nigériens de Boko Haram. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, présenté par Michel Joseph.
Le chef religieux Souleyman Abba, qui est membre de l'Association culturelle islamique du Cameroun, dit que son groupe a organisé la conférence en collaboration avec le gouvernement pour empêcher les tenants de l'idéologie djihadiste de la propager dans le pays.
Islam is against terrorism. L'islam est contre le terrorisme. L'islam est contre Boko Haram. Les musulmans camerounais doivent défendre leur pays qui a été attaqué par les terroristes et aussi combattre l'utilisation de l'islam à de telles fins. Nous avons des gens qui se servent de l'islam pour leurs propres intérêts. L'islam est paix et chaque musulman dans le monde devrait être un ambassadeur de la paix.
La communauté musulmane du Cameroun reçoit traditionnellement du Pakistan et d'Arabie Saoudite des fonds pour construire des écoles coraniques, mosquées et centres de santé. Mais maintenant, des bourses sont accordées aux élèves ou talibés pour aller étudier dans les nations arabes. Pour Souleymane Abba, depuis que Boko Haram a fait acte d'allégeance au groupe État islamique, son association a reçu des informations selon lesquelles il a été demandé à certaines mosquées d'appliquer, dit-il, la charia, la loi islamique, l'un des objectifs de Boko Haram.
La charia est définie comme étant la loi reçue d'Allah. Cette loi a un aspect non seulement civil, mais aussi pénal. Aujourd'hui, quand ils parlent de la charia, ils ne voient que l'aspect pénal. La charia signifie, par exemple, prier et jeûner pendant le mois du Ramadan. Nous ne devons pas suivre ces terroristes qui essaient de nous faire croire que la charia n'est que punition. Elle a un aspect civil dont nous devons aussi tenir compte.
Tous les musulmans ne sont pas d'accord, si l'on en juge par la position de Modibo Mustapha Issa, un chef religieux de Maroua. Selon lui, le message d'Allah, c'est le Coran, qu'il ne faudrait en aucun cas compromettre. Au demeurant, il trouve répréhensible d'inviter des chrétiens, ceux qu'il qualifie de mécréants, à des discussions avec des musulmans.
Et c'est pour cela qu'Allah, Jalla wa Ala, lorsqu'il a parlé de ceux qui n'utilisent pas leur sens pour comprendre et pour regarder ce qu'Allah, Jalla wa Ala, veut, il les a comparés à quoi ? À des bestiaux et à des animaux.
De tels gens, poursuit-il, ont des yeux mais ne voient rien. Ils ont des cœurs mais ne sentent rien. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent rien et ne seront jamais acceptés par Allah. La conférence réunit chrétiens et musulmans pour leur apprendre à promouvoir la tolérance entre religions et le rejet de l'extrémisme. Le pasteur Libang Lili Keng, d'une église protestante, estime que le Cameroun, plus que jamais, doit prêcher la tolérance pour éviter les conflits interreligieux.
Vous savez, les gens ont différentes vues. La chose normale est de l'accepter et la chose anormale, c'est le refus d'accepter les gens qui travaillent de bonne foi. Ce que j'enseigne, c'est l'attachement à Dieu et l'implication dans la vie sociale. C'est possible. Vous pouvez avoir des gens qui sont de vrais croyants et de grands acteurs sur la scène sociale.
Le professeur de sociologie Bridget Ndemba de l'université de Yaoundé avait prédit les risques de débordement au Cameroun dès que l'insurrection de Boko Haram a éclaté au Nigeria.
L'approche militaire va contribuer à diminuer la violence de ces groupes terroristes. Mais pour ce qui est effectivement de l'idéologie, elle pourrait prendre beaucoup de temps parce que en réalité, on ne combat pas une idéologie par des armes.
Il est vrai que Boko Haram menace l'esprit de tolérance et de coexistence pacifique entre religions qui a toujours prévalu au Cameroun. Récemment, les autorités ont arrêté des dizaines de chefs religieux musulmans et de leurs fidèles pour collaboration avec le mouvement terroriste nigérian. Et son acte d'allégeance au groupe État islamique n'a fait qu'exacerber les craintes au Cameroun quant à l'influence de ces extrémistes.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, African Music. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire, la liberté d'expression. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-928540. Je répète, c'est le 225-589-28540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. C'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Nos salutations à tous les amis de Bamako qui nous écoutent sur 102 FM. Peace Africa!
Voilà, c'est
Cette édition vous a été présentée par Bagassi Koura et Anne Alberson. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info.